Bonjour à tous et bienvenue au CAP. Je suis ici pour vous présenter Daniel Pipes. Daniel Pipes qui est le directeur du Middle East Forum. Aujourd'hui aux États-Unis, c'est un des experts les plus respectés sur tout ce qui se passe dans le monde arabe et dans le monde musulman. Daniel Pipes a habité pendant 3 ans au Caire en Égypte, donc je pense qu'il pourrait nous dire beaucoup de choses sur ce qui se passe là-bas. Il a beaucoup analysé tous les mouvements dans le monde arabe et dans le monde musulman depuis plus d'une quinzaine d'années. Et donc, il n'a pas été surpris, notamment des soubresauts qui ont eu lieu au début du XXIe siècle, à partir de 2001, puisqu'on avait vu dans ses écrits des choses très importantes qui avaient été écrites sur les possibles attaques d'Al-Qaïda. Et avec les derniers événements d'Égypte et de Tunisie, je crois que son analyse est véritablement très importante et très intéressante à écouter, parce que l'actualité nous sert visiblement avec... Avec les derniers événements. Je crois que je préfère donner tout de suite la parole à Daniel Pipes et ensuite on pourra prendre vos questions.
Bon, merci Philippe et bonjour messieurs, dames. Je voudrais discuter de 4 sujets d'une façon assez brève. Premièrement, ce qui se passe au Moyen-Orient ces jours-ci, ce sont ou des coups d'État ou révolutions. Il y a 2 coups accomplis en Tunisie et en Égypte et tentés en Algérie, en Jordanie et au Yémen. Remarquez que je dis coup d'État et non révolution. Dans les 2 cas de Tunisie, deux cas en Tunisie et en Égypte, ce sont les leaders militaires qui ont dit au président « Va-t'en, tu coûtes trop cher, nous n'avons pas besoin de toi et de ta famille ». Remarquez aussi qu'en dehors des présidents et de leurs familles, les establishments tunisiens et égyptiens sont restés en place. Le rôle de l'armée est devenu critique. Est-ce que cette armée qui a si mal conduit les affaires d'État depuis 1952 peut amener l'Égypte vers la démocratie? Est-ce que l'armée va bâtir sur les fondations séculaires, patriotiques et ouvertes d'esprit qui ont été établies dans les rues égyptiennes pendant les 18 jours? Ce sont 3 hommes en particulier qui sont les auteurs du destin égyptien. Le vice-président Omar Suleiman, le ministre de la Défense, Mohamed Hossein Tantawi, et le chef de cabinet, Sami Hafez Rahnan. Si l'armée rate cette chance, alors les islamistes peuvent profiter de l'occasion et trouver une route vers le pouvoir. Si Ennahda en Tunisie et les frères musulmans en Égypte bouleversent l'ordre actuel, ils auront achevé de vraies révolutions. Deuxièmement, je remarque qu'il y a 2 blocs au Moyen-Orient. En vérité, il y a une guerre froide au Moyen-Orient depuis quelques années. D'un côté, on a la République islamique d'Iran et ses alliés, y compris la Syrie, la Turquie, le Qatar, le Hamas, et le Hezbollah. Le Liban est en train de se joindre à ce bloc. De l'autre côté, on a le bloc saoudien qui contient le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, la Jordanie, le Yémen et plusieurs des Émirats arabes. Le bloc iranien est celui de la Mukawama, de la résistance. Ce sont des États révolutionnaires agressif et hostile à l'Occident. Le bloc saoudien est connu par son ambition statique et défensive. Ses présidents, rois et émirs veulent seulement conserver leur pouvoir. Ils ne sont pas les amis de l'Occident, ils ne partagent pas à ses valeurs, mais ils sont prêts à coopérer avec les puissances occidentales. Le bloc iranien est plus faible, mais c'est le plus dynamique. Si le bloc de la résistance arrive à changer plusieurs gouvernements régionaux, il a la capacité de changer l'équilibre de pouvoir au Moyen-Orient, avec les conséquences immenses pour l'islam radical, le terrorisme, le marché mondial d'énergie et pour Israël. Troisièmement, en parlant d'Israël, il y a un consensus quasi universel parmi les gens de bonne volonté, à savoir qu'il faut deux États, un palestinien et un juif, pour résoudre le conflit israélo-arabe. Et ce consensus repose sur une hypothèse douteuse, que c'est possible de trouver une solution acceptable pour les deux populations palestinienne et israélienne. Tout est possible s'il y a suffisamment de concessions ou de pression extérieure. J'apprécie cet esprit positif, mais je l'estime naïf et anti-historique. Le chercheur spécialiste des guerres, la polémologie, comprend que les conflits ne finissent pas avec des compromis, les concessions difficiles, les discussions informelles et la bonne volonté, mais au contraire, avec la défaite et la victoire. C'est le simple bon sens. La lutte est finie quand un des combattants ne veut plus continuer. Par exemple, les Allemands n'ont pas subi la défaite totale en 1918, ils ont tenté encore une fois de conquérir l'Europe. Mais en 1945, c'était clair qu'ils ont été battus et la guerre s'est définitivement terminée. C'est la même chose dans le champ israélo-arabe. Le conflit va se terminer quand un côté abandonne ses objectifs et pas avant cela. Où ce sont les Israéliens qui sont désespérés et qui abandonnent l'idée de l'État juif, ou ce sont les Palestiniens qui abandonnent l'idée d'éliminer l'État juif. C'est primitif et barbare, c'est primitif et binaire, mais c'est ainsi. Les implications sont évidentes. Chacun de nous, chacune de nos institutions et chacun de nos gouvernements, doivent soutenir ou la fin ou l'acceptation d'Israël. Formuler ce choix équivaut à dire ce qu'il faut faire. Toute personne attachée à la justice doit soutenir l'État, un État libéral, démocratique et créatif contre ses ennemis qui veulent le détruire. C'est-à-dire, toute personne attachée à la justice doit souhaiter qu'Israël puisse vaincre ses ennemis. Finalement, point 4, le destin européen. Je suis ni européen, ni spécialiste de l'Europe, mais du point de vue de l'islam et le défi islamiste, moi j'ai quelques pensées. Je suis peut-être le seul dans la groupe d'initiés qui centre son attention sur la menace islamiste en Europe à être heureux ces jours-ci. C'est parce que je vois la réaction anti-islamiste grandir encore plus vite que la menace islamiste elle-même. Le discours du Premier ministre britannique David Cameron, le 5 février, dans lequel il a focalisé sur ce qu'il appelait la tolérance passive pour l'extrémisme islamiste, y compris les formes non violentes, correspond exactement à ce modèle. De la même façon, le chancelier allemand Angela Merkel, en octobre dernier, a jugé que le multiculturalisme avait complètement échoué. Un référendum en Suisse sur les minarets a exprimé ses préoccupations de la population de ce pays. Bien sûr, il y a la nouvelle loi française contre la burqa, et je viens d'entendre qu'aujourd'hui ou hier, président Sarkozy a parlé de ce sujet d'une façon assez explicite comme David Cameron. La montée des partis partis politiques respectables, principalement centrés sur les questions touchant l'islam, est peut-être le signe le plus encourageant, contraignant les vieux partis à leur accorder de l'attention. Le temps passant, le fait que les individus et les organisations s'expriment et font l'apprentissage de la stratégie et de la tactique pour repousser l'islamisme, cela donne à l'Europe un espoir pour la civilisation. Et merci. Ce sont mes remarques préparées.
Merci. Merci beaucoup. Je trouve que c'est ce qui est très intéressant dans ce que vous avez dit, Daniel, c'est déjà cette opposition par rapport au coup d'État, aux révolutions, puisque nos médias français parlent beaucoup de révolution, de nouvelle évolution. Cette analyse aussi au travers des deux blocs, Iran, Arabie Saoudite, est véritablement intéressant. Et à vous écouter, on a l'impression quand même que vous penchez plutôt vers le bloc saoudien. Mais quand on regarde un petit peu d'une autre façon les choses, on se dit aussi mais le bloc saoudien, c'est le bloc wahhabite, donc c'est aussi un autre danger. Et je crois qu'il y a aussi une notion qui est absolument absente du débat en France, qui est très importante, c'est la notion de défaite et de victoire. Et c'est quelque chose qu'on a toujours énormément de mal à comprendre dans l'analyse politique en France. C'est le fait qu'en fin de compte, on doit toujours arriver, tout le monde a un petit peu raison, tout le monde a un petit peu tort, et je dirais une forme de neutralité. Alors qu'en fin de compte, je crois que c'est effectivement en effet très important pour obtenir la cessation des hostilités, qui est qu'un camp reconnaisse sa défaite pour qu'on passe à une étape suivante. Et c'est vrai que votre analyse sur ce qui se passe en Europe avec ce qui se passe aux Pays-Bas, avec la loi en France sur la burqa, c'est vrai qu'il se passe aussi des choses très 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 importantes. Et j'ai envie de vous poser donc la première question pour commencer. Aujourd'hui, en France, il vient d'y avoir un passage de témoin entre le chef de l'extrême droite française, Jean-Marie Le Pen, à sa fille, Marine Le Pen. Et certains imaginent que dédiaboliser, ayant oublié tout le discours antisémite, révisionniste de son père, Marine Le Pen pourrait, je dirais, faire une vraie percée électorale en France. Quand vous regardez un petit peu ce qui s'est passé dans les pays européens, les autres pays européens, par rapport, je dirais, à la montée comme ça de ces partis, je dirais, à la droite de la droite, sans faire des comparaisons, sans dire que c'est la même chose que le parti de Geert Wilders aux Pays-Bas, est-ce que vous pensez que Marine Le Pen peut, je dirais, devenir véritablement le troisième politique parti de France ancré et devenir un parti de gouvernement?
Elle peut vouloir, oui. Je ne sais pas assez pour dire si c'est son but actuel. Mais ce qu'on voit en Europe de l'Ouest, par exemple à Suède, en Italie, en Belgique et ailleurs, c'est que les partis politiques qui ont des racines fascistes ou néo-fascistes veulent changer, alors qu'elles peuvent avoir une attraction électorale. On ne peut pas, être Premier ministre si on est antisémitique. C'est pas possible. Mais si on est contre l'islamisme, comme par exemple Geert Wilders en Hollande, c'est possible. Alors c'est là où sont les votes. Et on voit par exemple le BNP, British National Party en Angleterre, change. On voit que la Ligue du Nord en Italie change, les démocrates suédois changent. Et je pense que c'est possible que le Front National en France va changer aussi.
D'accord. Merci. On va prendre vos questions.
Surtout, n'oubliez pas de vous présenter, s'il vous plaît. Alors, la première question sera pour qui ?
Bonjour, c'est Youssef Zirem d'Algérie News. J'ai une question et une petite remarque. Je commence par la petite remarque. Je crois que vous exagérez la menace islamiste dans les pays d'Afrique du Nord. Ma question, c'est celle-ci. Comment voyez-vous l'avenir immédiat de l'Algérie ? Merci.
Alors nous, aux États-Unis, nous avons un intérêt très grand en Mashrek et très peu en Maghreb. Je ne connais pas beaucoup de ce qui concerne l'Algérie, mais après 10 ans cela, je dirais qu'il y a des circonstances artificielles qui ne peuvent pas durer pendant des décennies et des décennies, des décennies et des décennies. Avoir un pouvoir autoritaire comme on a en Algérie ne peuvent pas durer. Comment ça va changer, je ne sais pas. Mais c'est la même chose en plusieurs pays au Moyen-Orient, ou bien le Maghreb ou le Mashrek, qu'il y a deux grandes puissances, les islamistes et la militaire. Les islamistes ont les visions, les idées, l'idéologie, et bien sûr l'armée a la puissance directe. C'est ce qu'on a vu en Tunisie et en Égypte, c'est que cette puissance directe ne peut pas durer infiniment. Et quand ça va changer, j'ai aucune idée, mais ça va changer en Algérie comme c'est changé ailleurs.
Question.
Bonjour, Wilman Bernardo. Quand vous dites ça va changer maintenant, là, dans un court terme, une année, 2 années, 3 années, ou bien ça mettra beaucoup plus de temps pour l'Algérie, parce que l'Algérie, c'est très particulier.
Comme je dis, j'ai aucune idée de date, mais il y a deux systèmes qui peuvent durer. C'est ou bien la démocratie libérale comme nous avons à l'Occident, ça peut durer pendant les siècles. Il y a aussi la tyrannie, le totalitarianisme qui peut durer pour longtemps. Si c'était Saddam Hussein à Tunis ou au Caire, on n'a pas vu les manifestations avec les mêmes résultats. Il aura battu les manifestations et ça sera fini. Comme on a vu à peu près en Iran en juin 2009. Mais ce qui est entre la démocratie et la tyrannie est plus faible. C'est ce qu'on a vu en Iran 1979 ou maintenant dans ces deux pays. Et ça peut changer vite au Yémen ou en Jordanie. Et même en Iran, c'est très intéressant ce qui se passe hier ou avant-hier. Alors, tous les deux côtés, le gouvernement et l'opposition, veulent s'associer avec les événements en Égypte. Le gouvernement dit, alors voilà la révolution islamique en Égypte. Et l'opposition dit, voilà nos frères de l'opposition, à l'opposition en Égypte. Et ils ont voulu à Téhéran et ailleurs manifester leur soutien pour les Égyptiens. Et l'État les a battus assez violemment. On va voir. Mais il y a tous les deux côtés qui veulent trouver de bonnes nouvelles en Égypte et en Tunisie. C'est ironique, ça.
Oui, bonjour. Est-ce que vous ne trouvez pas aussi ironique qu'aujourd'hui, juste, je suis Balout Mohamed de BBC et de Journal Libanais à Safia. Vous ne trouvez pas aussi ironique que les révolutions qui sont en cours actuellement dans le monde arabe touchent seulement les pays dirigés par des régimes uniquement pro-américains? Comment vous expliquez ce phénomène?
Mais je ne suis pas d'accord. En Iran...
Je parle de pays arabes. Hein. L'Iran n'est pas un pays arabe. Je ne parle pas de l'Iran, c'est pas... Je parle pas... des régimes arabes qui sont pro-américains. Je veux dire, Zine Abidine Ben Ali, qui était, qui était un ancien de CIA.
Arabe,
Monsieur Moubarak, qui était...
Je ne sais pas que c'est la différence.
Ah si, il y a une grande différence entre l'arabe et les persans. On peut parler des heures là-dessus.
Ce sont des différentes langues, mais entre Irak et Maroc, il y a aussi beaucoup de différences. En tout cas, j'accepte votre question. Oui, je sais. Et les Arabes aussi. Alors, il n'y a pas beaucoup de, des États anti-américains parmi les pays parlant l'arabe. Il y a quoi? La Syrie. Quoi d'autre? Ça change, oui, mais ça c'est un coin de la Syrie. Mais tous les États arabophones sont à peu près pro-américains. On ne sait pas en Syrie, on ne sait pas, ça peut être menacé. Alors,
pourquoi
il n'y a pas de manifestation en...
Pourquoi seulement touche les régimes qui étaient durant longtemps pas... amis pour, avec les États-Unis qui étaient...
Mon réponse est hors de la Syrie et maintenant le Liban, tous les États sont quasi pro-américains. Alors...
Enfin, les dirigeants sont pro-américains, les peuples ne sont pas pro-américains.
Les
États. Et je crois que, pour prolonger la question, en fin de compte, on peut se poser la question de savoir si ce n'est pas, par exemple, un média extrêmement important dans ces pays-là, comme Al Jazeera, qui est véritablement, qui est en opposition avec le message gouvernemental qui est plutôt pro-américain et qui envoie plutôt un message assez hostile, je dirais, à tout ce que défend l'Occident. Et une des vraies questions que je crois qu'on est tous en train de se poser en France, les choses avancent tellement vite. Moi, je prends l'exemple, par exemple, de vendredi midi. Vous lisiez Le Monde à 14h et on vous expliquait pourquoi Moubarak ne partira pas après le discours de la veille. Et à 18h, Moubarak était parti. Donc c'est vrai que chaque fois, les choses bougent tellement qu'on a un petit peu, quelquefois, enfin, se lancer dans des prédictions, ça fait un petit peu, je dirais, quelque chose d'un peu surréaliste. Et la vraie question qu'on est en droit de se poser, nous qui sommes un peu plus proches de ce monde-là que vous aux États-Unis, c'est: est-ce que ce qui se passe aujourd'hui dans le monde arabe, c'est 1979 ou 1989? Est-ce que c'est 1979, la révolution iranienne, avec véritablement une emprise islamiste, ou c'est 1989, un effet domino où les pays arabes se libéralisent tous, ou bien est-ce qu'il y a encore une troisième voie à inventer?
Ou bien c'est 1991 en Algérie? Oui. Eh bien, je dis toujours qu'il y a deux puissances, les islamistes et les militaires, et où l'armée est défaite comme en Iran, il y a les islamistes. Où l'armée est toujours forte, comme en Algérie, les islamistes n'arrivent pas au pouvoir. Alors c'est l'armée qui est la cause la plus déterminante du futur des États au Moyen-Orient. Je préfère ce terme Moyen-Orient et pas les États arabes. Y inclut la Turquie, où on voit que l'armée devient de plus en plus faible. Et les islamistes deviennent de plus en plus forts. Alors c'est comme ça. L'armée, les islamistes.
Oui, vu ce que vous dites en revenant à l'Égypte, l'armée promet les élections dans 6 mois. Est-ce que vous pensez que la seule possibilité, c'est que ces élections soient factices? Ou pensez-vous que ça sera conduire un processus vers la démocratie libérale? Et si c'est la deuxième solution, ne pensez-vous pas que cela puisse être un tremplin pour les islamistes comme en Turquie qui ont conquis le pouvoir d'une façon démocratique?
Le dilemme pour, je pense que c'est le deuxième, et le dilemme pour les États occidentaux, ce que nous voulons, la démocratie, mais nous ne voulons pas l'autre puissance, c'est-à-dire les islamistes. Alors, je pense qu'on peut trouver une possibilité d'un tiers alternatif, non la militaire, non les islamistes, si on a un procès assez lent vers la démocratie. Si c'est vite, comme c'était en Algérie ou en Irak, c'est seulement les islamistes qui sont organisés et qui ont l'argent. Mais si ça prend pas seulement des mois, mais des décennies, si on ouvre peu à peu, je pense qu'il y a la possibilité pour les autres partis, pour les autres tendances, d'avoir un rôle important dans la vie politique en Égypte ou ailleurs. Alors, il faut aller lentement, lentement. Et c'est ça. J'étais heureux quand George W. Bush a dit en novembre 2003 qu'il veut la démocratie au Moyen-Orient. La stabilité n'est pas assez comme politique américaine. Mais j'étais très déçu quand il a voulu la démocratie après quelques semaines ou quelques mois. On voit partout, disons en Corée ou en Turquie ou en Amérique du Sud, qu'il faut beaucoup de temps pour comprendre qu'est-ce que c'est la démocratie. C'est pas un concept instinctif. Il faut l'apprendre. Et en particulier, si on vient d'une société qui est dominée par un gouvernement non démocratique, disons en Irak, où c'est un régime staliniste, il faut du temps pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire la loi, les droits de la minorité, l'opposition loyale. Ce sont des concepts assez sophistiqués et non instinctifs qu'il faut apprendre pendant les années et les années.
Là, il y a une question ici.
Bonjour, Anaïs Dubois pour Marchés tropicaux et méditerranéens. Un des points communs entre Ben Ali et Moubarak était notamment qu'ils étaient affaiblis au sein de leur propre camp, de leur propre parti. Est-ce que c'est pour vous un facteur déterminant de la réussite des révolutions? Et est-ce qu'il y a aujourd'hui d'autres dirigeants dans le monde arabe ou au Proche-Orient qui sont dans la même situation, c'est-à-dire affaiblis au sein de leur propre clan?
Affaiblis son propre camp, ça veut dire quoi?
Clan familial.
Non, pas exactement, mais je vois qu'il y a quelques leaders, par exemple Saleh au Yémen, ou Mahmoud Abbas, à l'autorité palestinienne, qui sont très faibles, qui ne contrôlent pas leur territoire. Et je pense qu'ils sont en danger aussi, plus que les autres.
Question. Pardon, Philippe, allez-y.
Oui, non, je voudrais vous relancer sur une chose, c'est comment analysez-vous le rôle de Barack Obama dans cette période où on a vraiment eu, enfin, vu de France, où on peut dire que la diplomatie française n'a pas été très très active sur la scène, sur les pays qui ont évolué comme la Tunisie ou l'Égypte, si ce n'est des actifs touristiquement, si je peux être un petit peu ironique, mais on ne peut pas dire qu'elle ait vraiment été très en avant sur ce qui s'est passé. Et ce qu'on a pu voir en Égypte, c'est vraiment, vu d'un regard européen, c'était très. Moi, j'avais l'impression de voir une intervention coloniale d'Obama qui disait à Moubarak, dégage quasiment. Et j'ai eu l'impression, et encore une fois, si on m'avait interrogé jeudi, j'aurais dit, ah, maintenant, Moubarak ne partira pas, il sera soutenu par son peuple, parce que les gens vont dire, c'est quoi ce président étranger qui nous donne un ordre, qui donne l'ordre à notre président, on perd notre dignité. Et donc, en fin de compte, je me suis complètement planté, puisque le lendemain, Moubarak était parti. Comment on peut analyser, je dirais, ce toupet de Barack Obama d'aller si loin dans les ordres qu'il se permet de donner à certains dirigeants, et comment c'est pris aux États-Unis?
Aux États-Unis, il a perdu de soutien à cause de ce qui est passé en Égypte.
Le soutien de qui?
De l'électorat, des Américains. Il est moins populaire maintenant. Oui. Je ne peux pas vous dire exactement quel sondage, mais c'est ça que je viens de lire. Et aussi impressionnant, c'est que il y avait un article hier au New York Times qui explique en grand détail ce qui est passé à la Maison Blanche. Et il y avait des moments où on a regardé la télévision avec tout le monde. On n'a pas su ce qui se passe. Et ces efforts que vous venez d'écrire, qu'Obama a fait, n'ont pas réussi. Et on a l'impression que c'est une administration qui est confuse, qui est naïve, et qui essaye d'apprendre qu'est-ce que c'est la politique étrangère.
Enfin, il a quand même. Enfin, je suis pas là pour défendre Barack Obama, mais on peut dire qu'il a quand même réussi son opération. Si son objectif était de faire, entre guillemets, dégager Moubarak, la pression. Alors peut-être que c'est pas ça qui a fait chuter Moubarak, mais d'un regard européen, et moi j'ai lu beaucoup d'éditorialistes français saluant l'activisme d'Obama qui a réussi à obtenir ce départ de Moubarak. Peut-être qu'il n'y est pour rien, mais voilà, vu, enfin je ne sais pas si on partage tous un petit peu cette analyse en France.
Je m'appelle Paul Patin et je travaille à l'ambassade des États-Unis. Je suis l'attaché de presse. J'ai une question pour vous, monsieur Pipes. Vous avez dit que Obama s'est montré naïf et confus. Selon vous, qu'est-ce qu'il aurait dû faire vis-à-vis des événements en Égypte ou en Tunisie pour ne pas être naïf ou confus?
Alors, la Tunisie, ça fait partie de l'influence française, pas américaine, c'est pas notre sujet. Mais l'Égypte, il y a les liens très important entre les deux pays, les liens militaires en particulier. On aura dû savoir qu'est-ce qui se passe chez les généraux égyptiens. On aura dû comprendre ce que fait Gamal Moubarak, d'essayer de dire à son père qu'il faut rester n'importe quoi. Il a fallu savoir qu'est-ce que c'est qui est derrière les manifestations. Tout ça était important et tout ça était non compris parmi les dirigeants américains.
Mais c'est là des questions de renseignement, d'intelligence et non pas de politique.
Alors, oui, vous avez raison, à cause de l'absence de ces renseignements, on n'a pas su quoi faire. Et on a vu des contradictions. Par exemple, il y a le président qui dit que Moubarak doit aller et son représentant Frank Wisner qui a dit alors il peut rester. Et après ça, Hillary Clinton qui dit il peut rester. Il n'y avait pas de politique consistante et ça a changé quelquefois et de dehors on n'a pas compris que veut le gouvernement américain.
Excusez-moi, est-ce que je peux faire une petite relance à la question? Je voudrais vous poser deux questions.
Monsieur, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, juste pour...
Georges Sassine, journaliste libanais. Ma question préliminaire, Est-ce que vous situez encore comme un des leaders des néocons aux États-Unis? C'est ma première question. Et deuxièmement, est-ce que ma question qui est en rapport avec la nouvelle donne stratégique qui inclut également Israël, parce qu'avec les événements, la révolution en Égypte, ça peut déstabiliser en quelque sorte les accords de Camp David. Est-ce que vous pensez, Monsieur Pipes, que le gouvernement israélien peut bouger dans le sens de donner beaucoup plus de prérogatives pour le gouvernement palestinien pour accélérer le processus d'un établissement d'un État palestinien? Et en corollaire, est-ce que vous êtes quelqu'un de très connu sur la scène proche-orientale, qu'est-ce que vous suggérez au camp de la paix en Israël pour bouger dans ce sens? Merci.
Bon, merci. Alors, la question, si je suis néoconservatif ou non, je ne sais pas. Alors, j'ai beaucoup d'amis qui sont les néoconservatifs, mais moi, quand il se concerne les affaires moyen-orientales, j'ai eu des grandes différences avec George W. Bush. Premièrement, ce qu'on a parlé de la démocratie, je pensais qu'il faut beaucoup plus de temps. Deuxièmement, en Irak, j'étais contre cet essai de rétablir l'Irak d'une façon américaine, comme on a fait en Allemagne ou au Japon. J'étais pour l'invasion, contre un trillion, c'est comment on dit en français?
Un trillion.
Un trillion de dollars.
1000 milliards.
1000 milliards qui est perdu et 5000 vies. Oui, bien sûr, les Irakiens comptent, mais ce n'est pas notre compte. Et troisièmement, j'étais contre la politique néoconservative vis-à-vis le conflit israélo-arabe, en particulier le dégagement israélien de Gaza en 2005. Alors, ce sont mes amis, mais je ne suis pas avec eux. Alors, je ne sais pas si je suis ou je ne suis pas. Question d'Israël et les Palestiniens. Il y a 18 ans, en 1993, un optimisme en Israël avec les accords d'Oslo, on va terminer ce conflit. Et c'était toujours là, ce sentiment, jusqu'à à peu près 2000-2001. Et maintenant, c'est passé. Si on regarde le Parlement israélien, on voit que ceux qui veulent, qui pensent qu'il y a une chance, une véritable chance d'achever la paix avec les négociations, ça fait seulement ou bien un tiers ou un quart du Parlement. La majorité ne croit plus que les négociations vont réussir. Ils les font parce qu'il y a la pression internationale. Mais je pense qu'il faut des autres Palestiniens en position dirigeant ou bien une autre autorité ou quelque chose qui change. Mais à ce moment, je ne pense pas qu'il y a de possibilité d'avoir des résultats de négociation entre les deux côtés.
J'ai envie de vous relancer là-dessus. Pendant très longtemps, on a entendu à chaque fois, dans les diplomaties occidentales, le fait que Israël était le problème à résoudre pour arriver à la démocratisation du monde arabe. Et j'ai l'impression qu'avec ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, en fin de compte, on dit toujours Israël est le point de blocage à l'accès de fixation. Et j'ai l'impression aujourd'hui qu'on voit que les pays arabes, s'il y a véritablement un effet domino qui va arriver, à ce moment-là, je pense que ce sera plutôt, la paix entre Israël et ses voisins sera plutôt la cerise sur le gâteau que le point de départ. Quelle est votre analyse, vous, du point de vue Washington?
C'est un point de vue très répandu à l'administration de George W. Bush et de Obama, tous les deux, qu'il faut commencer avec Israël, le conflit arabe, israélo-arabe. Si on peut achever des résultats là, alors pas seulement la démocratie, mais les questions d'islam radical ou bien le développement économique et les autres issues vont couler beaucoup plus facilement. Si on peut commencer avec Israël, les autres issues vont être plus faciles. Moi, je ne suis pas d'accord, mais ça explique pourquoi il y a cette concentration sur les négociations entre les Arabes et les Palestiniens et Israël. On l'a vu aussi pendant l'administration de Bush. Il a parler tant des résultats dans ce champ, mais il n'a bien sûr n'a pas réussi. Mais c'est toujours la rêve politique américaine qu'on commence avec Israël et puis Irak, la démocratie, l'économie, l'islam, tous les autres issues vont mieux. Je voudrais dire encore une chose au sujet de la politique américaine. Il y a bien sûr des immenses différences entre Bush et Obama dans le champ domestique. Mais à l'arène extérieure et au Moyen-Orient en particulier, il y a beaucoup de continuité. Je dirais que 80% est la même entre les deux administrations. C'est beaucoup moins différent qu'on aura pensé il y a 2 ans. Et en particulier, la conférence de Obama il y a 4 jours, le 11 février, quand Moubarak a fait sa démission, c'était le Freedom Agenda de Bush. Il a parlé comme Bush. Alors, c'est très intéressant qu'il n'y a pas tellement de changements dans la politique vis-à-vis le Moyen-Orient.
D'accord, merci.
Bonjour, Jacques Hamann, MK Press. J'ai 2 questions. La première question, tous les pays européens jusqu'ici ont présenté les révolutions en Tunisie et en Égypte comme des révolutions Facebook, Internet, etc., populaires, tout le monde se donne à fond pour amener la démocratie. Comment expliquez-vous cette unanimité de tous les pays, toutes les radios, toutes les télévisions, toute la presse à répéter la même chose? Alors qu'il était quasi évident que pour la Tunisie et pour l'Égypte, c'était l'armée qui prenait en compte ces révolutions. Deuxièmement, vous avez parlé de l'importance des armées dans les différents pays de cette zone. On sait que l'armée tunisienne n'est pas trop forte. L'armée égyptienne, elle, est assez importante. Et d'autre part, dans les pays des blocs qui l'entourent, on sait que l'armée turque est la plus forte de toutes les armées, même presque aussi forte que les armées européennes. Quel va être son rôle dans cette opération? Peut-elle, en influençant les armées tunisiennes et égyptiennes, avoir une espèce de mainmise sur l'évolution de ces deux pays? Et dernière chose, la Libye, quel est son rôle dans toutes ces opérations? Merci.
Merci. Je pense qu'il y a un romanticisme au sujet des révolutions. Tout le monde aime les révolutions. Alors, s'il y a quelque chose qui passe, on dit que c'est une révolution, même si, comme vous êtes d'accord avec moi, que ce n'est pas une révolution. C'est, tout le monde est resté, sauf Ben Ali et Moubarak. Ce n'est pas tellement changé. Maintenant, en tous les deux cas, on essaye de trouver leur argent. Mais c'est tout. Deuxième, les armées et l'armée turque. L'armée turque est une armée très spéciale. C'est les héritiers de la légasse de Atatürk. Chaque jour, presque chaque heure, l'officier turc entend les mots, l'esprit, les idées d'Atatürk, même qu'il est mort. Ça fait 73 ans. C'est une armée quasi idéologique. Face à la processus démocratique qui est contre Atatürk. Alors, c'est un dilemme. Et on voit que l'armée turque devient de plus en plus faible. Mais ça, c'est unique. Et je ne pense pas qu'il y a d'influence ailleurs. Mais ce qui est important en Turquie, c'est le modèle de l'AKP, d'avoir une partie islamiste qui gouverne bien, où il y a développement économique, où on a essayé de finir avec les questions comme les questions de Kurdes et de Chypre et d'avoir un accès à l'Union européenne. Alors, ce modèle des islamistes qui font bien, ça, c'est très important, je pense. On le voit pas ailleurs. C'est seulement en Turquie. C'est certainement pas à Téhéran. C'est pas en Iran. On trouve pas une économie qui marche en Iran. Mais ça marche très bien en Turquie. La Libye, je ne pense pas qu'il y ait un grand rôle.
Tu ne penses pas qu'il y a
un grand rôle pour Kadhafi?
C'est-à-dire quoi? Qu'il va rester, encore une fois, tout en sachant que les choses évoluent très vite et qu'on peut apprendre ce soir qu'il a démissionné. Vous pensez que les choses sont... Parce que c'est un peu... C'est aussi, on se pose plein de questions. La Libye est un endroit qui est en danger ou qui est en danger, qui est en voie d'évolution, de coup d'État, de révolution?
On n'entend rien. Alors,
on n'entend rien. On ne sait pas parce que c'est un pays trop fermé, c'est ça?
C'est bien fermé, non. Je ne sais pas beaucoup.
Il a menacé d'envahir la Tunisie.
Oui.
Ouais. Ok.
Avez-vous d'autres questions? Oui. Attendez juste parce que c'est enregistré. Donc c'est...
Okay. travaille avec le site MDG, la maison des journalistes. J'ai une seule question sur le rôle économique de l'armée algérienne.
Je ne sais pas assez. Pardon. Non, je ne peux pas. Je ne sais pas assez pour répondre.
Merci beaucoup à tous. Merci Daniel Pipes. Merci pour ces éclairages très importants sur la situation actuelle.